À voix nue, Laurent Goumard s'entretient avec Emmanuel Huyn. Aujourd'hui, les mots n'existent pas. Alors, les mots n'existent pas, Emmanuel Huyn, ce n'est pas le titre d'une de vos pièces. C'est le titre d'un passage d'un recueil de Christophe Tarkos. Le recueil s'intitule Le signe égal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre, Les mots n'existent pas, qui pourrait expliquer votre rapport à la poésie, systématisé depuis quelques années? Comme si les mots n'existent pas, à ce moment-là, peut-être que la danse est le moyen de les faire exister.
Oui, je retournerai presque ce que vous me dites exactement à l'inverse, c'est-à-dire les mots sont aussi ce qui ont autorisé ma danse à être ce qu'elle est en train de devenir. C'est-à-dire qu'il y a eu dans la rencontre avec... avec Tarkos et puis Herberto Helder plus récemment. Je pense que Christophe Tarkos, oui, encore une fois, m'a aidé, m'a autorisé à libérer la forme de burlesque ou la forme de gaieté, la forme de rire qui existe, là, je dirais, dans ma vie ou dans moi comme personne, et qui ne sortait pas encore dans la danse. Cette forme, je ne sais pas, de gravité, de sérieux qui existe dans Mua, dans Tout Contre, vraiment de sérieux. Dans Distribution en cours, on commence par le démontage de la machine à quelque chose qui commence à s'apparenter à du burlesque. Et je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus assumé parce qu'Anachronisme m'a permis ça.
Anachronisme, c'est le titre du recueil de Christophe Tarkos, oui. Qui est à l'origine de la pièce Bord 2.
Bon, les chiffres sont en fait, toutes les occurrences ont eu un chiffre. Bord 1, c'est la Villa Gilet. Bord 2, c'est Montpellier Danse, hein, l'année où vous m'avez invité, en 2001. Bord 3, c'est Toulouse. Voilà, donc il y a eu en fait plein de bords. Il y a une dizaine de bords. Le fait que Tarkos écrive d'une façon à la fois donc, très connectée à sa maladie, à son corps, mais en même temps... moi je dirais comme un sculpteur, c'est-à-dire qu'il peut tout d'un coup zoomer sur un objet et se fondre dans l'objet et en même temps coller à cet objet une anecdote personnelle ou qu'il puisse tourner autour d'une situation, mais vraiment physiquement en tourner et nous amener en fait à une sorte de chute, encore une fois presque physique. Je me suis dit, cet homme, il est comme un sculpteur, mais il est vraiment comme un danseur dans sa façon d'écrire. Et il y a une forme, encore une fois, de farce aussi dans beaucoup de ses textes d'anachronisme. Donc en me disant, mais je vais trouver une façon de les dire ou de les bouger, ou qu'eux nous bougent, dans cet endroit-là où on a essayé d'incorporer Tarkos, il m'a permis de parler... Il m'a permis de faire que les gestes, enfin, les mots Tarkos ont permis que mes gestes commencent à assumer oui, leur dimension plus vivante, plus ludique, plus proche de l'enfance aussi, donc de celui de l'infance, de celui qui n'a pas de mots, mais de celui qui peut jouer, de celui qui peut bouger. La pièce en fait a été pensée comme à l'initiative, à l'invitation de Guy Walter à nouveau à la Villa Gilet. Je souhaitais être au plus proche de la nature du lieu, c'est-à-dire un lieu de réflexion et un lieu aussi où le livre a de l'importance, puisque Guy invite beaucoup d'écrivains, d'auteurs, de chercheurs à faire des conférences ou à s'exprimer sur leur livre. Et je me suis dit, je vais être au plus près de la nature de la Villa Gilet. Donc je me suis dit que j'allais travailler sur un texte et effectivement, je suis tombée, ou Tarkos m'est tombé dessus, après avoir beaucoup cherché. Et ensuite, je me suis dit que jusqu'à maintenant, je n'aimais pas du tout le mot sur scène. J'ai plutôt au départ une grande aversion pour le théâtre, mais ça a changé toutes ces années. Et je me suis dit, si je m'empare d'un texte, il faut que je trouve, que je propose une alliance, une nouvelle alliance, ou pour moi-même, moins, une alliance corps et texte qui me ressemble. Et la façon de répondre à ça, c'est finalement d'inventer une scène pour cette émergence. Et c'était vraiment la question de l'espace, d'inventer un lieu pour qu'émerge corps et texte en même temps. Et à ce moment-là, j'ai fait commande à Nicolas Flock de 15 tables montables et démontables sur lesquelles les danseurs pourraient danser ou sous lesquelles ils pourraient se cacher. Et cette commande, en fait, pourquoi des tables? Tout simplement, encore aussi, pour être plus près de la nature, de la ville agilée, lieu d'étude pour moi, ou si je commence à travailler sur un livre, physiquement, le livre, où est-ce qu'on le pose pour lire? C'est sur une table. Donc, considérer la table comme saine, comme lieu d'émergence de cette alliance corps et texte. Et donc, Bord se déclinait dans des lieux qui n'étaient pas des lieux théâtre, et elle collait à l'architecture, ou elle s'incrustait à l'architecture du lieu en se recomposant à chaque fois.
Ce qui est intéressant avec Bord et donc cette relation avec la poésie, anachronisme de Tarkos, c'est que vous n'allez pas reconduire, quand ensuite vous allez rencontrer une nouvelle poésie, la poésie portugaise de Helder, vous n'allez pas reconduire la même façon de travailler. C'est-à-dire que de Bord à Vida Enorme, vous allez opérer une cassure, il va y avoir une distance que vous allez mener entre le texte et la danse. D'abord, on pourrait parler de Bord, puisque Bord consiste à lire le texte sur la peau des danseurs comme un phénomène, comme une apparition, c'est-à-dire comme si la poésie était inscrite sur la peau et qu'il suffisait de le déchiffrer. Mmh. Et c'est ce déchiffrement qui permettait toutes les gestuelles possibles.
Oui, donc on appelle, enfin moi j'avais appelé cette... façon de bouger et de dire le corps micro, le corps comme micro, comme caisse de résonance du texte. La façon de jouer avec les mots dans Bord, c'était ça. C'était effectivement considérer le mot à fleur de corps, le corps comme micro, comme caisse de résonance. Comment aussi les mots pouvaient nous bouger, nous forcer à bouger. Comment nous, on allait les bouger. C'est-à-dire les dire et en même temps bouger, et en même temps se mouvoir. Et comment, je dirais, métaphoriquement, on pouvait représenter ça en faisant, défaisant, en étant toujours à la tâche de faire et défaire les tables, comme une scène qui sans arrêt s'ouvrait, se refermait sur nous, et en même temps être à la tâche tout le temps de la lumière, puisque vous devez vous souvenir que l'installation de Cathy Olive, c'était des projecteurs qui prenaient les tables comme réflecteurs, et que les danseurs manipulaient d'une façon permanente pour éclairer la nouvelle scène, le nouveau moment. Donc on était à la tâche de construire notre espace sonore, de le proférer en même temps que de le bouger, notre espace de lumière aussi, et notre espace physique. Et tous les jeux inventés cherchaient à proférer différemment, ou à être des occasions de jeux physiques. Je pense au 1, 2, 3 soleil. Tarkos a une liste de pâtisseries à un moment. Et bon, cette liste de pâtisseries, proférée par une des danseuses, Phyllis Cizanli, sert à un moment d'égrenage, de métronome pour bousculer complètement l'espace dans lequel on est, en utilisant les pâtisseries comme ce qu'on disait à la place de 1, 2, 3 soleil. Donc, en même temps qu'on profère cette liste, on joue le jeu de 1, 2, 3 soleil pour détruire complètement l'espace. Et c'est vrai que, après avoir vécu, je dirais, une expérience forte avec la poésie de Tarkos, c'est-à-dire être bougé et bouger Tarkos, enfin ces mots, je me disais ensuite, avec la poésie d'Herbert Hölder, je ne peux pas reconduire cette façon de parler et de bouger. Et j'ai mis du temps, en fait, à comprendre ou à savoir comment j'allais faire avec Hölder. Et du coup, la forme film m'est venue de la répétition elle-même, du travail commencé avec Nuno Bizarro, donc en mars 2002. À ce moment-là, on était à Montpellier, accueillis en résidence par Mathilde Monnier. Et puis, on était tout au début du travail, et je proposais à Nuno de lire en portugais. J'avais besoin d'entendre... cette poésie et sa voix, et moi je répondais librement en choisissant d'autres, je répondais pas à la traduction de ce qu'il me disait, mais je répondais des textes qui me plaisaient. Et puis il y avait les oiseaux de la pièce de Mathilde Monnier, signé, qui était dans le couloir à côté de là où on répétait. Puis il y avait les étudiants qui passaient, puis le soir quand on répétait tard, c'était très silencieux. Donc tous ces moments de lecture, tout d'un coup je me suis dit, quand je les réécoutais, puisqu'on s'enregistrait, tous ces moments de lecture. On enregistrait aussi dehors en marchant, parce que je voulais essayer de voir ce que c'était que parler et marcher en même temps, quelles idées ça pourrait me donner. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais ça, c'est du cinéma, ou ça, c'est la bande-son d'un film. Donc, j'ai trouvé, en fait, la forme de Davida en regardant ce que j'étais en train de faire et en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Eh ben, je fais du son et je fais de l'image après, enfin, je fais du corps après. Ça, c'est un film, ça, c'est une bande-son. Donc, après, j'ai poussé, je me suis appuyée sur ces guides-là.
Et comment vous expliquez, Emmanuel Huyn, que vous ayez ce besoin toujours reconduit de séparer les choses ? C'est-à-dire, par exemple, dans Distribution en cours, il y avait donc le démontage, vous disparaissez, le discours de l'astrophysicien, et ensuite la partie improvisée par les danseurs. Et là, par exemple, pour Avida Énorme, d'abord une bande-son, donc simplement une installation de baffles sur le plateau, on vous écoute mais vous êtes absente, et ensuite, dans la deuxième partie, les danseurs dansent dans le silence, excepté le silence, bien sûr, de leur mouvement. Enfin, le bruit de leur mouvement. Pourquoi vous séparez ?
Et les injections de We Can Be Heroes.
Les injections de la musique de David Bowie.
Ouais, je me suis jamais posé la question comme ça. Alors, si j'essaye de répondre sur le vif, je crois qu'il y a peut-être, là c'est peut-être la formation philosophique du coup qui ressort, c'est-à-dire une tendance méthodologique à creuser une chose jusqu'au bout. D'ailleurs, Cathy Olive,
l'éclairagiste
avec laquelle j'aime beaucoup travailler aussi, me disait, moi j'aime dans ton travail le fait de creuser, tu t'obstines à une chose, il y a un sujet et tu le contorsionnes lui-même ou tu te contorsionnes pour rester dessus. Alors moi j'avais jamais même noté ça, mais je crois que du coup là c'est la formation philosophique qui est la question est celle-ci et c'est pas une autre et c'est celle-là qu'il faut creuser. Je crois que c'est une peur de la digression ou du dilettantisme. Oui, c'est une façon un peu obsessionnelle de creuser la question et du coup peut-être de serrer certaines questions que pour l'instant, je juxtapose. Enfin, je juxtapose. Il va peut-être y avoir un moment où les choses se fondront plus. Il me semble que dans le projet de Heroes, quelque chose est plus tressé, justement, et moins séparé. Donc Heroes, le projet sur lequel je travaille en ce moment. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a eu un souci ou un besoin de serrer les questions et sans doute de les présenter séparément. Et puis je crois qu'à là, je peux vous répondre aussi, ça me vient, je crois que l'influence ou le goût que j'ai pu avoir pour l'art minimal, l'art conceptuel, et donc certains écrits de Donald Judd sur l'objet spécifique ou certaines de ses œuvres, certaines de ses sculptures, autour desquelles il faut tourner et autour desquelles il faut avoir une expérience mais qui est elle-même objectivement une forme de série, je crois que cet exemple-là, cette connivence-là, cet amour pour cet art-là, fait que j'assume le fait que voilà, il y a un paquet de sons et il y a un paquet de mouvements après, et ça me touche ainsi.
D'ailleurs, c'est comme ça que vous aviez aussi conçu l'hommage à Merce Cunningham et John Cage, puisque c'est à vous qu'on a aussi demandé, on l'avait demandé à Mathilde Monnier, mais c'est aussi à vous qu'on a demandé donc de participer ou de donner une réponse à un hommage à la relation Merce Cunningham et John Cage.
Oui, la réponse effectivement que j'avais eue, enfin, c'était une forme de réinterprétation de cette autonomie extrême dans laquelle Cage et Cunningham travaillent, tout en se conjoignent à la fin. Donc, leur façon de travailler indépendante, et finalement, le jour de la première, ils se collent ensemble. L'hommage que je... Enfin, la façon dont je voulais lui rendre hommage, c'était effectivement de choisir aussi trois activités hétérogènes. La lumière ombreuse de Cathy Olive, le déplacement d'une machine pleine d'objets, donc activée, bougée par Christian Rizzo, et moi-même me déplaçant sur le plateau, étant avalée par la machine, disparaissant dans la lumière de Cathy, ou étant révélée par la machine ou par la lumière de Cathy. Donc, à nouveau aussi, une forme de séparation et de, d'à certains moments, de rencontres et de fusions.
Quel était le texte que vous aviez choisi de lire de Tarkos, vous, dans la pièce Bord, Emmanuel Huyn?
Alors je lisais, je disais, puisque là on avait appris par cœur, c'était « La réalité n'invente rien ». C'est moi qui invente tout, c'est moi qui dois tout inventer. Elle ne sait rien faire, c'est moi qui dois tout lui faire. Elle est molle, je fais tout, je dois la prendre en charge. Je ne sais plus après. Mais donc, j'aimais beaucoup ce texte parce que il signait aussi une volonté d'auteur, c'est-à-dire ma réalité, je dois l'inventer. Elle n'existe pas, c'est moi qui dois complètement la faire. Et comme artiste, c'est ce que je crois. D'ailleurs, à ce propos, j'avais pris un texte de Christian Prigent pour vous, édité chez Poel, qui est « À quoi bon encore des poètes ?» Et ça rejoint un peu ce texte de Tarkos où le poète en fait invente un autre monde pour pouvoir rentrer en relation avec le monde. Pourquoi y a-t-il quand même ça, ça plutôt que rien? Le ça, c'est l'écriture, la poésie. Quel sens a encore le fait d'écrire? À quoi servent ces bizarreries, ces écarts, ces formes inouïes? À quoi bon encore des poètes? Qu'est-ce qui pousse à écrire? Et pour moi, c'est qu'est-ce qui pousse à danser ou qu'est-ce qui pousse à chorégraphier? Premièrement, l'expérience que la vie non écrite, la vie soumise au parler faux, est une vie misérable et qu'il faut bien répondre par un certain geste sur la langue, à la honte d'être sans parole et assujetti. Deuxièmement, le constat que la langue de tous n'est celle de personne et qu'il y a donc, comme je le disais, à se trouver une langue pour verbaliser l'expérience que nous faisons intimement du monde. Donc là, comme chorégraphe, je me retrouve entièrement dans ce qu'il dit sur la poésie. Troisièmement, ce paradoxe, la langue, qui nous fait homme, nous délivre du monde au moment même où elle prétend nous le livrer. Il y a donc d'un côté à pousser à bout ce geste d'arrachement au naturel, et de l'autre à assumer le désir d'une alliance nouvelle avec le monde. Voilà, je crois qu'on pourrait remplacer pour moi le mot poésie par le mot danse ou mouvement ou chorégraphie.
Est-ce que vous identifiez, non pas vos limites en tant que chorégraphe, mais les difficultés que vous pouvez rencontrer en tant que chorégraphe?
Ben là, aujourd'hui, par exemple, je me sens à un moment... un moment difficile d'une nouvelle pièce. Je me sens à l'orée du travail... Justement parce que je crois que c'est... Donc je parle de ce prochain projet qui s'appelle Héros ou Heroes. Je ne sais pas encore si on optera pour la forme française ou la forme anglaise du titre. J'ai l'impression, j'ai envie de faire une fresque, d'être plutôt sur une forme d'épopée qui pourrait se rapprocher d'un opéra, pour le coup. Et là où j'identifie aujourd'hui des limites, là où je peine, c'est que j'ai l'impression que justement... À la différence d'Avida Énorme, qui est une chose assez sérieuse, là, je devrais entrevoir, je devrais être capable d'entrevoir cette fresque dans sa globalité. Et pour l'instant, je sens que j'ai les pistes ou l'envie de ça, mais je ne sens pas les armes pour avoir le tableau global. Parce que j'ai envie de travailler sur des textes politiques, des textes féministes, des textes religieux peut-être... des textes manifestes qui ont vraiment mis en marche certains hommes politiques, enfin, je pense à, non pas à Che Guevara, mais au sous-commandant Marcos, je pense à des textes de performeuses, enfin de féministes. J'ai envie aussi de me réapproprier certains héros cinématographiques, j'ai aussi envie de m'approprier peut-être certaines formes de moments d'histoire personnelle des interprètes avec lesquels j'ai envie de travailler. Et tout ça, finalement, est un tableau très, très vaste et qui, je me sens un peu écrasée. Donc, pour être tout à fait sincère, là, la limite, en ce moment, aujourd'hui, je la sens du fait de ne pas visualiser cette épopée. Alors, c'est sûr que je ne peux pas visualiser entièrement la pièce avant qu'elle ne soit faite, heureusement, mais par rapport à d'habitude où j'ai l'impression que je peux rentrer dans le travail par un bout, par un côté, ou de me dire ben, je rentre par un côté puis je trouverai, là j'ai le sentiment que je devrais être en prise avec quelque chose de plus global, de plus vaste, et je n'ai pas cette vision aujourd'hui.
Vous parlez d'épopée, vous parlez de héros ou de heroes. Dans la pièce précédente, Abida Enorme, il y avait en effet injecté dans la danse silencieuse des moments, des paroles, disons, de la chanson de David Bowie. Heroes ou héros, pourquoi ?
Oh ben, je crois que le fil se continue. Abida Enorme s'appelle Abida Enorme épisode 1 et l'épisode 2, c'est Heroes, c'est héros. Alors le fil qui se continue... c'est l'épopée. Là, c'était une forme d'épopée du 2. Et d'ailleurs, les deux danseurs de Abida Enorme, épisode 1, Catherine Legrand et Nuno Bizarro, sont comme des héros extraits d'une histoire dont de ces camps. C'est-à-dire ils sont totalement dorés, comme des sculptures, comme Gilbert et Georges. Je viens juste d'y penser. Comme des sculptures qu'on a trouvées, qu'on a extraites. Et ils sont héros de leur vie, héros de leur histoire. Héros de leur récit, et pourtant c'est une poésie, on va dire, non pas banale, mais une poésie du quotidien, la poésie d'Herberto Helder. Et les héros là, que j'aurais envie de voir sur scène pour la prochaine pièce seraient des héros qui iraient piocher aussi bien dans leur vie personnelle, leur source personnelle, en même temps qu'ils iraient accrocher aussi, ils iraient s'accrocher à des héros qui font partie de la mémoire collective. Donc, d'où l'envie de piocher dans des manifestes politiques, d'où l'envie de revenir à un corpus cinématographique ou même un corpus théâtral, peut-être un extrait d'une pièce classique de théâtre interprétée sur scène. Donc, une espèce de fresque qui dérive entre biographie, biographème intime, et mémoire collective.
Et alors justement, est-ce que vous êtes l'héroïne de votre vie, Emmanuelle Huyn, puisque vous parlez de vos interprètes, des héros que vous voudriez voir, qui seraient les héros de leur vie ?
Ben, je crois que ce que je veux dire dans Heroes, enfin ce qui se dira peut-être, c'est que chacun, et donc moi-même, sommes héros, c'est-à-dire, comme dans la chanson de Bowie, ce sont des héros... vain aussi, c'est-à-dire des héros ordinaires de notre vie. Mais je pense qu'on l'est tous. Notre conduite, nous devons être des héros de notre vie. Et des héros ordinaires au quotidien et en même temps nous extraire, nous arracher d'une façon permanente à ce qui nous semble trop bas, trop dur, trop raide.
Et ce serait surinterprété que de mettre ça en relation... avec ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire la maternité et le prénom de votre fille, qui est Céleste. On ne peut pas faire plus haut.
Oui, alors je n'avais pas pensé non plus à ça. Oui, cette petite fille est chargée avec ce prénom, Céleste. Oui, je crois que c'est le constat d'une alternance permanente dans laquelle chacun se trouve, c'est-à-dire d'avoir la capacité de s'arracher... Et à sa condition tristement humaine, et à la fois d'être totalement en prise et les pieds dans cette dimension humaine et quotidienne. Donc je crois que le travail de l'artiste, le mien, mais comme celui de toute personne, hein, c'est ce travail permanent d'arrachement.
Laurent Goumard s'entretenait avec Emmanuelle Huyn, prise de son...
Prise de son, Carole sans devoir, réalisation Vivienne Noël, et demain le fou rire.